mois, retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire Des coups au cœur, proposée par l'association Littéra 05. Anne-Marie sélectionne pour vous les bouquins des livres nomades et vous donne l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, notre coup au cœur ira à un livre de Sylvain Prudhomme, son dernier livre d'ailleurs, « Par les routes », publié chez Gallimard en 2019, dans la collection « L'Arbalète ». C'est un livre qui a déjà obtenu un franc succès. Je vous lis le début. « J'ai retrouvé l'autostoppeur il y a 6 ou 7 ans, dans une petite ville du sud-est de la France, après plus de 15 années pendant lesquelles, sans tout à fait l'oublier, l'autostoppeur n'est pas le genre d'homme qu'on oublie, j'avais du moins cessé de penser à lui aussi souvent que par le passé. Je l'appelle l'autostoppeur, car c'est ainsi, affublé de ce surnom qui n'aura jamais existé que pour moi, dans mes adresses intérieures à lui, sans qu'il en sache rien, qui n'aura cessé de m'apparaître tout au long des années où je l'aurai côtoyé, tout au long de celles aussi où, éloignés l'un de l'autre, j'aurai pourtant continué de me le rappeler de loin en loin, comme un repère. Les marins ont un mot que j'aime pour cela, dans lequel on peut entendre ce qu'il faut d'ambiguïté, même si eux n'y attachent rien d'inquiétant. Un amer. Je venais d'emménager à V, lorsque j'ai appris qu'il vivait là, lui aussi. Donc, Sacha, le narrateur, écrivain, est venu s'installer à V, donc il ne nomme que par une lettre, une petite ville du sud de la France, où il s'installe, il a quitté Paris, justement, pour venir écrire son prochain roman. Il est donc très surpris de rencontrer celui qu'il va appeler tout au long l'autostoppeur. Il l'a connu il y a 20 ans, il a parcouru le monde avec lui en autostop, il était son grand ami, et il a rompu avec lui sans qu'on sache tellement pourquoi. Il lui avait simplement demandé de sortir de sa vie, parce que cet ami était comme, et je reprends les mots de Sylvain Prudhomme, le pot de fer qui ne veut pas de mal au pot de terre, qui lui veut même sincèrement du bien, et qui pourtant, d'un faux mouvement, le réduit en miettes. Alors l'autostoppeur, donc, vit lui aussi à V, et il vit avec Marie et Augustine, leur fils. Mais à l'inverse de Sacha, il continue à partir sur les routes en stop. Il disparaît pendant des jours pour aller à la rencontre des personnes qui veulent bien l'accepter dans leur voiture, avec qui il crée des liens. Et à un moment, il explique donc à Sacha. Page 36. Et tu vas où? J'ai demandé. Quand tu pars, c'est pour aller où? Il a eu l'air d'hésiter. En général, je fais l'aller-retour à Paris ou à Lille, à Brest, à Besançon. J'essaie de varier. Mais tu as des choses à faire là-bas chaque fois? Pas forcément, il a dit en haussant les épaules. Parfois oui, parfois non. Je prends l'autoroute et je vais d'air en air. Je dis la vérité aux automobilistes, qu'en réalité je me fiche un peu d'arriver où que ce soit, que peu m'importe Paris ou Lille ou Brest, que je fais ça pour le plaisir. Pour le plaisir? J'imagine que ça doit être ça, puisque j'y retourne, puisque régulièrement ça me reprend, l'envie de repartir. J'ai essayé de me le représenter. Autostoppeur de 40 ans sur les routes, par goût, pouce tendu près des pompes à essence d'une aire d'autoroute, de Champagne ou de Bourgogne. Et quand tu leur dis ça, ils répondent quoi? Il y a ceux que ça amuse, ceux qui pensent que je bluffe, ceux qui me prennent pour un doux dérangé, ceux qui se disent qu'ils ont affaire à un psychopathe, j'ai ri. Il y en a, c'est vrai. Nous nous sommes tués un instant. Ils ne te demandent pas de descendre ? Je ne leur dis pas tout de suite. Je les laisse redémarrer. J'attends qu'ils aient quitté l'aire d'autoroute, reverrouillé les portes. Qu'ils soient de nouveau à 130 à l'heure, avec au dehors les champs qui défilent, la rambarde qui court, les panneaux bleus qui plongent à la rencontre de la voiture. Alors je leur dis la vérité. Que je suis surtout venue les voir, eux. En général, il y a un blanc. Je les vois qui regardent sur leur GPS la durée de trajet restante, qui guettent les panneaux kilométriques indiquant la prochaine sortie. J'essaie de les rassurer. Je leur dis que je les trouve admirables de m'avoir pris, que pour moi c'est le critère suprême de l'hospitalité, être capable d'ouvrir sa portière au parfait inconnu. Ne pas craindre de se retrouver soudain à 30 cm d'un étranger dont ils ignorent s'il sera agréable, s'il partagera leurs idées, s'il sentira bon, si la présence de ces 70 kilos assis là sur le siège passager, seulement séparés d'eux par la tige du frein à main, leur sera plaisante ou les importunera. Je leur dis que je veux rencontrer un maximum de gens comme eux, capables de ce geste-là. Donc voilà, ils se retrouvent, donc Sacha et l'autostoppeur, mais chacun a suivi une voie différente, donc. À l'un, l'écrivain, la vie sédentaire avec l'écriture au centre de sa vie. Maintenant, je dirais que les mondes qu'il a jadis arpentés avec son ami, il les retrouve dans les livres. À l'autre, donc, l'appel de la route du départ, même s'il l'abandonne justement en femme et enfant. « Vis, me disait toujours l'autostoppeur, vis et après tu réécriras. Ne laisse pas passer cette belle journée de soleil. » Chaque fois qu'il me voyait devant mon ordinateur. Ou si par gentillesse il ne le disait pas, je comprenais qu'il le pensait. Et ses actes aussi me le disaient, la baignade qu'il allait faire et pas moi, la promenade dont il revenait et pas moi, les inconnus qu'il rencontrait au bar et pas moi. Voilà, donc l'autostoppeur, justement, donc qui vit avec Marie et Augustine, en fait, n'est vu qu'à travers Marie et Augustine. On ne sait pas ce qu'il fait entre le moment où il part et le moment où il revient. En fait, il est le héros du livre, mais c'est un héros absent. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Il part sans but précis pour le plaisir, donc ce que nous a dit la lecture précédente, le plaisir de rencontrer des gens. Il tisse des liens avec eux. D'ailleurs, il est photographié, il a énormément de photographies. Un soir, Sacha et une amie, Jeanne, sont invités chez l'autostoppeur et Marie. Et il va peut-être un petit peu expliquer pourquoi il part. Jeanne s'est mise à questionner l'autostoppeur sur son dernier voyage, à le presser de questions sur ses voyages en général, avec une impudence comique, un culot que ni Marie ni moi n'aurions eu. « Et tu dors où quand tu t'en vas comme ça? Les nuits, tu les passes où ?» Je trouve un Formule 1, une auberge, un relais routier. Je rencontre un automobiliste qui m'offre un toit. J'improvise. Parfois, je bivouaque. Tu bivouaques ? Il a haussé les épaules. Une fois, j'ai passé la nuit dans mon duvet devant le volet roulant d'une station-service. Et toi, Marie, ça ne t'embête pas de ne pas savoir où il est ? Tu ne t'inquiètes pas ? Bien sûr que si, je m'inquiète, a souri Marie. « Mais tu penses que tu cherches quoi ?» a demandé Jeanne en se tournant à nouveau vers l'autostoppeur. « Je veux dire, quand tu fais ça, tu le fais pourquoi ? Ça ne te rapporte pas d'argent ? Ça t'éloigne de Marie et d'Augustine ? Ça te prend plusieurs jours chaque fois ? Tu rentres épuisé ? Tu n'es pas reporter, pas écrivain, pas photographe ? Tu ne veux pas faire un film, ni une expo, ni un roman ? Enfin, pas que je sache. Tu le fais pourquoi alors ? Il m'a regardé comme pour m'appeler au secours. Je ne sais pas. Il a laissé passer un temps. Sincèrement, je ne sais pas. Je le fais pour plein de choses, sans doute. Je le fais pour les rencontres, pour les moments avec moi-même, pour les endroits que ça me fait découvrir. Jeanne a eu un sourire perplexe. Pour les rencontres, ça me paraît dingue. Moi, j'en ai marre de rencontrer des gens. Je passe ma vie à en rencontrer. Mon rêve, ce serait déjà de réussir à voir ce que j'aime, à aller voir vraiment. Il y a eu un temps. Je me suis demandé si la soirée allait partir en vrille. Il est resté calme. Je rencontre des gens différents. Dans la même journée, je peux rencontrer un garde forestier, un patron de PME, un charcutier, un arpenteur. Jeanne l'a regardé. Et ça suffit à te faire repartir chaque fois ? C'est vraiment ça que tu te dis au moment de retourner te poser à la sortie de la ville avec ton panneau ? Chouette, aujourd'hui, qui sait ? Je vais peut-être rencontrer un arpenteur et un charcutier. Il a ri. Marie et moi aussi. Tous, nous avons respiré de voir l'atmosphère se détendre. Jeanne a ouvert une nouvelle bouteille de vin, comme pour bien signifier que la discussion ne faisait que commencer. Nous avons attendu, regardé l'autostoppeur hésiter, se demander que répondre. « J'en ai besoin, » il a fini par dire. « Je crois que c'est ça, tout simplement. J'en ai besoin. » Il y en a qui ont besoin de faire du sport, il y en a qui boivent, qui sortent faire la fête. Moi, j'ai besoin de partir. C'est nécessaire à mon équilibre. Si je reste trop longtemps sans partir, j'étouffe. Sa voix tremblait un peu. On sentait l'effort qu'il faisait pour formuler tout ça. « Ça t'arrive d'étouffer ?» il a demandé à Jeanne. « D'avoir la sensation physique d'étouffer, je veux dire, de vraiment manquer d'air. » Le ton de sa voix était imperceptiblement monté. Jeanne a acquiescé. Et je vois que c'est pire depuis que je garde des traces des gens que je rencontre. Je vois ma pile de photos qui augmente, ma liste d'adresses qui se rallonge. Ça devient compulsif. J'ai toujours envie qu'il y en ait plus. Voilà, on va découvrir peu à peu ce personnage et puis les relations qui vont se nouer. En fait, ce livre, c'est, à un moment, je crois qu'on l'a lu, le thème de l'hospitalité. Que penser de quelqu'un qui ouvre la portière de sa voiture pour faire monter quelqu'un qui ne connaît pas ? C'est ça, l'hospitalité. Et puis le thème de la vie qui passe, du temps qui s'en va, de la vie, de la mort, ce sont les thèmes que l'on retrouve dans Par les routes. C'est le temps qui passe, c'est l'éternel recommencement de la vie et de la mort, de ce qu'il appelle, de ce que Sylvain Prudhomme appelle l'impermanence des choses en ce bas monde. D'ailleurs, le livre est fait d'une succession de moments. Le temps du souvenir, c'est l'amitié antérieure de Sacha et de l'autostoppeur. Le présent, avec les départs et le retour de l'autostoppeur. Et le futur que tentent justement de construire les personnages. Le temps s'étire, mais Sylvain le retient en décrivant avec beaucoup de détails aussi bien les lieux que les activités quotidiennes les plus simples pour restituer chaque instant qui passe. Et il le fait, je dirais, avec beaucoup de succès. Il nous explique d'ailleurs à un moment le point de départ de son livre, ce qui est assez quand même particulier. Je vais vous le lire. Il est question de Flaubert. « Je me suis plongée dans ma nouvelle vie. » J'ai repris le travail, recommencé à promener ma vieille dame par les aéroports et les gares du monde entier. J'ai réalisé que je n'avais pas tout dit à Marie et à l'autostoppeur, que je leur avais même caché un élément essentiel, le point de départ de tout mon projet. La fameuse ellipse du dernier chapitre de l'éducation sentimentale. Ces quelques lignes qui suffisent à Flaubert à la fin du livre pour envoyer Frédéric en voyage, et le faire revenir des années plus tard, suffisamment vieilli, en trois phrases, pour regarder maintenant sa vie avec recul. Entre parenthèses, puisque c'est un passage de l'éducation sentimentale. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Fermez la parenthèse. Vertige du temps dilapidé, de l'écheveau des ans dévidé d'un coup, bouleversement de toute une vie humaine, réduite par l'accélération désinvolte de Flaubert à cela. Un départ, un retour. Le voyage d'un homme destiné de toute façon à passer. comme tout passe. À rebours de Flaubert, j'avais décidé de retenir le temps, de freiner autant que possible son passage en opérant le contraire d'une ellipse. Un ralentissement par saturation, dilatation, restitution de chaque instant dans ses ramifications, son buissonnement inépuisable de détails, d'images, de sensations, de réminiscences, d'associations. Je me suis demandé pourquoi l'autre soir je n'avais pas dit que ma vieille dame n'allait pas successivement à Cotonou, à Bénarès, à Bogota, mais dans tous ces endroits à la fois, fondus dans le même absolu présent. Pourquoi je n'avais pas dit mon titre, La mélancolie des paquebots, comme une promesse d'expansion à l'inverse de Flaubert, dont tout l'effort était de ramasser. Voilà pourquoi dans ce livre on retrouve énormément de détails, aussi bien des descriptions de lieux que des activités quotidiennes. Il y en a qui trouveront qu'il donne beaucoup trop de détails, mais justement là il nous explique pourquoi il fait l'inverse de Flaubert. Pour finir, je dirais, je vais faire une lecture sur ce que dit l'autostoppeur sur les gens qu'il rencontre. Je trouve ça très intéressant. Il parle toujours donc à Sacha. Au fait, est-ce que je t'ai raconté, Fabienne, cette psychiatre qui m'a conduit de l'Orient à Paris? Est-ce que je t'ai raconté Thierry, qui ne devait au départ me dépanner que 20 bornes et qui m'a finalement gardé 5 heures? Est-ce que je t'ai parlé de Georges, ce musicien qui collectionnait les guitares et avait autrefois enregistré un morceau d'une demi-heure avec Deleuze, lisant des bouts du Voyageur de Nietzsche? Est-ce que je t'ai raconté Alexandre, un étudiant d'Amiens, qui m'a dit « Ben, l'amour, j'en reviens, là, tout de suite, j'en sors. Enfin, je ne sais pas si c'était l'amour. Ça fait 6 ans qu'on se voit et j'ai l'impression qu'elle s'attache. Mais moi, je sens toujours rien. Peut-être qu'il faudrait qu'un jour, j'arrive à lui dire. Est-ce que je t'ai raconté Martine, qui avait rencontré Jean-Pierre dans une boîte de nuit des environs de La Roche et continué de l'aimer très fort 30 ans après ? Lorsqu'elle m'a pris, elle avait oublié son sac dans une maison où elle venait de terminer un ménage, et c'est en me voyant m'installer sur le siège passager qu'elle s'en est aperçue. Ensemble, nous avons fait demi-tour pour retourner le chercher. Quand nous sommes arrivés, elle l'a tout de suite vu. Les propriétaires de la maison l'avaient déposé devant l'entrée pour ne pas avoir à rouvrir la porte. Martine s'est contentée de ramasser le sac, elle est remontée en voiture, et nous sommes repartis. Est-ce que je t'ai raconté Sabrina, qui allait retrouver Jonathan près d'Olonne et qui a tout d'un coup dit qu'elle ne l'aimait plus? Il faut que je le quitte, cela d'un ton résolu, comme une promesse. Là, j'y vais comme chaque semaine, comme chaque vendredi soir, je vais gentiment le retrouver. Il ne se doute de rien, m'attend comme si nous allions faire notre vie ensemble. Mais moi, je sais que c'est fini. Je veux que ça s'arrête. Elle avait encore attendu et elle avait soufflé « Je n'en peux plus ». Elle avait fait de son mieux pour retenir ses larmes. Elle m'avait regardé en souriant pour s'excuser. Ça fait 1 an que j'essaie. Je vide un peu mon sac, pardon. Mais c'est exprès. Je me dis que ça me donnera peut-être le courage de le quitter tout à l'heure. Est-ce que je t'ai raconté ce très vieux monsieur qui, à peine la portière refermée, m'a dit « Vous êtes le 2e autostoppeur que je prends dans ma vie. Le premier, c'était il y a 40 ans. » Et il m'a raconté le souvenir qu'il en gardait, étrange, presque irréel. Le type en question ne voulait pas lui dire son métier. Il était bien habillé, avait l'air sûr de lui, il se contentait de répéter qu'il était haut fonctionnaire de la République. Haut fonctionnaire dans quelle branche ? Avait plusieurs fois demandé le conducteur. Jusqu'au moment où, n'y tenant plus, l'autre avait fini par lâcher « Je suis bourreau. » Cela du ton le plus ordinaire possible. « Je suis le bourreau de la République. » Le précédent bourreau était mon oncle, et maintenant le bourreau c'est moi. C'est le titre officiel. Bourreau. La guillotine, les têtes coupées, tout ça, c'est moi. Cela se passait en 1977, 4 ans avant l'abolition de la peine de mort, et les mois suivants, 2 exécutions avaient encore eu lieu. Les 2 dernières de l'histoire de France, l'une et l'autre largement commentées par les journaux. La dernière racontée avec une révolte froide par la juge commise d'office, Monique Mabelli, qui rapporte notamment cette blague sinistre du fameux bourreau au moment d'ôter les menottes aux condamnés à mort réveillés à 4 heures du matin. Ce mot horrible et tragique, écrit-elle exactement. Eh bien, vous voyez, vous êtes libre. Cela avant de lui tendre sa dernière cigarette, son dernier verre de rhum, et de lui couper la tête. Par les routes, Sylvain Prudhomme, publié chez Gallimard en 2019, dans la collection La Barlette. Merci pour votre écoute, à bientôt.
Lord, I've done so much wrong, but please give me strength to care.